France Culture.
Salle des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange.
France Culture, salle des archives. Jacques Chirac ne s'arrête jamais. Épisode 4, l'as des cohabitations. Chirac est un champion de la cohabitation. On pourrait presque dire qu'il a inauguré ce mode de gouvernement avec Valéry Giscard d'Estaing quand il était son premier ministre entre 1974 et 1976, tant les relations entre les deux hommes étaient tendues. Une coexistence entre deux courants de la droite, les gaullistes de Chirac et les centristes de VGE. La cohabitation, Giscard l'avait d'ailleurs théorisée juste avant les législatives de 1978, alors qu'il était passé à deux doigts de perdre sa majorité. Il reconnaissait alors que si sa majorité devait basculer à gauche, il lui faudrait nommer un premier ministre issu de l'opposition et probablement du Parti socialiste dirigé par François Mitterrand.
Concernant les rapports entre la majorité et l'opposition, j'indique qu'il est temps d'en venir à ce que j'appellerai une cohabitation raisonnable.
Finalement, Giscard était parvenu à éviter cette cohabitation grâce à une courte victoire de la droite aux législatives en 1978. Mais cette première évocation de la cohabitation ouvrait en quelque sorte la voie à ce qui allait devenir la réalité quelques années plus tard sous François Mitterrand. Et c'est là qu'on retrouve de nouveau le personnage principal de notre histoire, celui qui ne s'arrête jamais, Jacques Chirac.
Le journal, Alain, bonjour.
L'aura pas, le suspense aura donc duré toute la nuit et ce n'est que vers 5h30-6h ce matin que le verdict officiel est tombé. La droite parlementaire RPR-UDF, avec le concours des diverses droites, obtient la majorité absolue des sièges, une victoire d'une courte tête avec 291 députés, soit tout juste deux de plus que la majorité absolue, et cela avec un avantage d'une vingtaine de sièges pour le RPR sur l'UDF.
Je ne cesserai de vous surveiller, avait dit François Mitterrand à Jacques Chirac lors de leur premier entretien au Palais de l'Élysée après sa nomination. Et Mitterrand va tenir parole en refusant de signer les ordonnances proposées par le gouvernement, celles en tous les cas qui ne constituaient pas à ses yeux un progrès. Autrement dit, il allait censurer le cœur de la politique chiracienne, en particulier les lois sur la réforme du marché du travail et celles sur les privatisations. Pourtant, paradoxalement pour Chirac, ces deux années avec Mitterrand vont être moins pénibles que celles qu'il avait passées avec Giscard. Il a finalement davantage de latitude avec un président du camp opposé et peut gouverner avec l'appui de l'Assemblée nationale qu'il contrôle d'une courte majorité. Raphaël Baquet, vous êtes journaliste au Monde et autrice de nombreux ouvrages. On vous doit notamment le livre « Seul comme Chirac » avec Denis Savreau chez Grasset ou encore « Chirac ou le démon du pouvoir » chez Albin Michel. Dans cet épisode dans lequel on évoque la cohabitation, est-ce qu'on peut déjà, selon vous, ou est-ce que c'est abusif, de parler d'une sorte de cohabitation entre Chirac et Valéry Giscard d'Estaing ?
Ah oui, c'est le bon mot. Ce sont non seulement deux personnalités contraires, mais ils ont des désaccords politiques profonds, bien qu'ils fassent partie tous les deux de la droite. Et c'est vrai qu'on va le voir tout de suite. Giscard est à la fois plus moderne sur le plan sociétal et Chirac a un programme économique plus raide. Donc, ils ne vont pas cesser de se heurter. Puis ils ont deux caractères très différents. Ils se heurtent aussi sur des questions de prééminence, très souvent. Et Giscard ne veut pas céder la place à son Premier ministre. C'est ce qui va alimenter la chronique de l'époque.
Qu'est-ce que Chirac pouvait bien penser de Valéry Giscard d'Estaing, en tous les cas au début ? Parce qu'on a le sentiment d'une certaine admiration quand même Premier ministre pour le Président de la République.
Chirac est un homme qui doute toujours de lui, et ça on le verra dans tout son parcours politique, dans toute sa vie. Donc évidemment, face à quelqu'un d'aussi cérébral que Valéry Giscard d'Estaing, il est impressionné. Giscard est très intelligent. Chirac pense qu'il est sot. Donc, évidemment, c'est tout à fait différent. Puis, Giscard est aussi très sûr de lui et de son intelligence, alors que, encore une fois, Chirac doute. Donc, il va y avoir une espèce d'emprise, si je puis dire, pour employer un mot d'aujourd'hui, mais de Giscard sur Chirac. Et c'est ce qui va tout de suite envenimer leur relation, parce que les gaullistes ne l'entendent pas ainsi.
Quand vous dites « Chirac pense qu'il est sot », est-ce que c'est des choses qu'il a dites parfois? Est-ce que c'est des choses qu'il est allé jusqu'à avouer à des journalistes?
Ah oui, il a souvent parlé de lui comme ça. Il avait beaucoup d'autodérision. C'est... La sympathie, d'ailleurs, qu'il inspire aux Français est en partie liée à ça. C'est quelqu'un qui, justement, n'est pas arrogant, n'est pas au-dessus de... n'est pas prétentieux, hein, comme disent souvent les gens. Donc, et c'est vrai, c'est très vrai. Donc, oui, effectivement, il a souvent dit, en plaisantant, mais comme une espèce de second degré qui n'en était pas tout à fait un, il a souvent dit qu'il était... moins intelligent qu'on ne le pensait, moins intelligent que les journalistes, moins intelligent que tel ou tel rival politique. Il était sans doute moins intellectuel que Giscard, mais il avait beaucoup plus d'instinct politique et ça compte et c'est parfois une valeur très supérieure.
Est-ce que vous diriez que la personnalité de Jacques Chirac s'est bien accommodée d'une autre situation de cohabitation qu'a été celle avec François Mitterrand entre 1986 et 1988? Est-ce qu'il pouvait, au fond, on a beaucoup dit qu'il n'avait pas une colonne vertébrale politique en termes d'idéologie très très forte, très très puissante, est-ce que la cohabitation pouvait lui correspondre?
Oui, sans aucun doute. Alors en 86-88, il a aussi, il a un gouvernement vraiment à sa main. Une dream team, comme on dira plus tard pour l'autre cohabitation qu'il opposera à Jospin. Mais c'est vrai que ce gouvernement de 86-88, il n'y a que des poids lourds. Il est vraiment très très bien organisé. Et donc, il est à l'aise avec cette équipe, qui est une équipe dans laquelle il y a à la fois des gaullistes qu'il connaît, et puis des gens de l'UDF, finalement, qui accepte son autorité. Et donc, ça marche très bien. Et comme Mitterrand n'a pas son mot à dire là-dessus, oui, ça lui convient particulièrement. Il est aussi, il a la même admiration pour l'intelligence de Mitterrand qu'il l'avait pour Giscard. C'est un peu d'ailleurs la même chose. Il est face à deux présidents très cérébraux, subtils, Mitterrand encore plus florentin, bien sûr, que Giscard, mais ça l'intimide, mais en même temps, face à Mitterrand, il fait le poids. Il fait le poids avec son gouvernement.
Alors comment est-ce qu'il peut se sortir de cette situation d'admiration? Est-ce en étant dans l'opposition? Est-ce dans l'opposition à François Mitterrand dans la rencontre, par exemple? Est-ce au contraire en cherchant à l'amadouer? Est-ce en cherchant à le séduire? Comment finalement ces relations vont s'organiser entre l'un et l'autre, Raphaël Baquet?
Oui, il va chercher à le séduire, mais enfin Mitterrand, au bout d'un moment, il va lancer des coups de griffe. Il est aidé quand même, Chirac, à l'époque, on l'oublie, mais il y a quand même un homme primordial à cette époque, c'est Balladur. Édouard Balladur, qui est quand même celui qui compense justement les faiblesses de Chirac. Parce que Édouard Balladur, lui, c'est un homme qui considère qu'il est un intellectuel, il l'est plus que Chirac, c'est vrai. Il est plus théoricien des réformes qu'il faut engager. Il est plus théoricien du libéralisme qui est celui de la droite à l'époque. Donc, d'une certaine façon, il complète extrêmement bien Chirac et c'est aussi pour ça que Chirac se sent plus à l'aise dans cette cohabitation.
Donc c'est la tête et les jambes, Chirac et Balladur?
Oui, un peu, c'est vrai. Et je pense que leur duo fonctionnait extrêmement bien et c'est ce qui a expliqué après que la trahison d'Édouard Balladur a été si terrible pour Jacques Chirac. C'est qu'ils avaient formé un tandem inexpugnable à l'époque.
En tous les cas, cette nouvelle forme de gouvernement à deux têtes semble ne pas déplaire totalement aux Français.
Alors là, les Français sont très contents de ce qu'ils ont fait dimanche dernier. Et ils sont tout à fait emballés par la cohabitation. En effet, 57% d'entre eux pensent que ça va coller, ça va marcher entre Mitterrand et Chirac. Souvenons-nous, la semaine dernière, dans le premier sondage que nous avions fait juste après que les Français connaissent le résultat, il n'était que 39% à penser que ça allait marcher. Donc, un double état de grâce pour Jacques Chirac, mais aussi pour François Mitterrand, qui est assez nouveau. Comme la situation est nouvelle, ce double état de grâce, cet état de grâce en double commande est également un élément nouveau.
Raphaël Baquet.
Ah ben c'est le en même temps avant le en même temps. C'est-à-dire que les Français avaient cette idée qu'Emmanuel Macron, bien plus tard, sur laquelle il a surfé, mais qu'il fallait prendre ce qu'il y avait de mieux à droite et à gauche. Et dans leur esprit, la cohabitation, c'était ça, au fond. Ce qui, en vérité, n'est pas vrai, parce que dans nos institutions, la prééminence vient quand même au gouvernement. Mais ils avaient cette illusion, parfois d'ailleurs, que du coup ça ferait un pouvoir équilibré et qu'il n'en aurait que les bénéfices.
Et cette vision des choses finalement correspond assez bien à un Jacques Chirac qui est certes de droite, mais qui peut avoir des compatibilités avec la gauche.
Mais Jacques Chirac, il n'a pas d'armature idéologique. Il a toujours eu une armature qu'il a empruntée à d'autres. Donc, il est devenu très libéral en 86-88 parce qu'il avait des théoriciens du libéralisme, Édouard Balladur au premier chef. Ensuite, il a surfé sur la fracture sociale en 95 parce que, bon, c'était sans doute une part de son fond personnel et de caractère. Bon, enfin, c'est pas non plus sa très grande conviction, faut pas non plus exagérer. C'était surtout ce qu'il voyait dans les sondages. C'était une façon de se démarquer de son rival. Et d'ailleurs, un an après, il fait un tournant économique et il réendosse une politique libérale. Il est très pragmatique et souvent très cynique. Il est sympathique, mais il est très cynique quand même.
Est-ce qu'il y a tout de même, Raphaël Baquet, un bilan, Jacques Chirac, de cette cohabitation avec François Mitterrand, qui serait un vrai bilan politique?
Ah bah les privatisations, ça a été quand même assez durable, hein, comme réforme politique d'importance. Donc c'est sans doute sur l'économie qu'il y a le plus d'acquis, si je puis dire, de ce gouvernement et qui sont restés relativement longtemps.
Mais la cohabitation qui va le plus marquer la vie politique de Jacques Chirac, c'est celle avec Lionel Jospin suite à la dissolution de 1997, dont les résultats ont un peu surpris le président. Extrait de l'émission Changement de direction de Laurent Ruquier sur France Inter.
La 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 la.
Jacques Chirac.
La 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 la, putain de putain de putain. Ah, vous avez vu les sondages? T'as vu les sondages? Oh, ok. Oh putain, les sondages. On va gagner. On va être peinard 5 ans. Ah putain, je vais pouvoir faire le Yémen, l'Australie, l'Écosse, la Finlande, le Tibet. Je vais avoir le lama, là, de père de notre ami, là. Putain, c'est génial. Ah, je laisserai les clés à Juppé. Non, parce que si c'était à Jospin, je serais obligé de rester pour le surveiller. Oh putain, je suis un bon, tu es bon, Chirac. Oh, arrête. Y a qu'un truc qui m'énerve. Ah, ouais, c'est de revoir Balladur. Ah, le retour de Balladur. Dites, vous savez pas si on peut le dissoudre, lui, hein?
Raphaël Baquet.
Mais en fait, les humoristes ont très très bien cerné Chirac. Il était très lisible, hein, comme homme. Et donc, c'est pas seulement sa voix qui est juste. C'est ce qu'il dit. C'est tout à fait ça. Il aurait voulu être aimé, très populaire. Et il n'a pas été un très grand. Il n'a pas été un très bon président. Donc, en fait, ce qui lui restait, c'était ça, hein, représenter la France, voyager. Les plaisirs de la politique, c'est ça qu'il aimait.
Donc vous pensez que les humoristes, finalement, ont été aussi bons que les analystes politiques pour le caractériser?
Oui, je le pense vraiment. Et quand on regarde les Guignols, on voit qu'ils ont vu très juste, ou Ruquier avant, mais ils ont vu très juste, mais c'est parce que Chirac, encore une fois, était facile à cerner. Beaucoup plus qu'Emmanuel Macron, par exemple, aujourd'hui. Il était très lisible.
Finalement, Chirac n'aura pas l'occasion de faire le tour du monde comme en rêvait son personnage, et pour cause.
France Inter.
C'est fait. Jacques Chirac vient de nommer Lionel Jospin Premier ministre. Le chef de la nouvelle majorité parlementaire est arrivé à 11h30 ce matin à l'Élysée. L'entretien a duré près d'une heure entre les deux hommes. Lionel Jospin succédait à Alain Juppé qui avait, dès 9h, présenté la démission de son gouvernement. Dans la cour de l'Élysée, Benoît Colombat.
10h, Alain Juppé vient de remettre au président sa démission et celle de son gouvernement après 2 ans passés à Matignon. 11h30, les grilles de l'Élysée s'ouvrent pour la deuxième fois. C'est l'arrivée de Lionel Jospin, assis à la droite de son chauffeur. Une heure plus tard, c'est fait. Le premier secrétaire du PS enfile le costume de Premier ministre. Je vous propose de l'écouter.
Simplement, le président de la République vous proposait de me nommer Premier ministre et j'ai accepté.
Le gouvernement sera composé quand?
Vous me nommez Premier ministre et j'ai accepté.
Rapidement.
Raphaël Baquet, entre Jospin et Chirac, on a affaire avec cette nouvelle cohabitation à deux personnalités qui sont diamétralement opposées, entre le sérieux du premier, la sobriété qu'on en entend dans cette archive, son profil plus intellectuel mais aussi plus froid, et puis le mode de gouvernement plus chaleureux mais aussi considéré peut-être comme moins rigoureux du deuxième. Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans ce contraste-là ?
Ben, en tout cas, c'est là-dessus que Chirac va reconstruire sa position, entièrement sur son caractère, et entièrement sur la sympathie qu'il inspire. Donc, c'est vraiment un truc de com' qui n'est pas complètement plaqué, parce que ça correspond à sa personnalité
profonde. Mais qu'il avait théorisé lui-même ?
Ah oui, bien sûr. Avec Claude Chirac, c'était très frappant. Il faisait des campagnes et des enquêtes et des sondages sur l'image de Jacques Chirac, et il savait bien que c'était la chose qui lui restait. À vrai dire, les gens étaient très critiques sur Jacques Chirac. La preuve législative, il les a perdus de façon très cinglante. Mais il y avait quelque chose qui subsistait, c'était son humanisme et sa sympathie. Et donc, ils ont reconstruit son image là-dessus.
Est-ce que vous diriez qu'il a fait beaucoup d'erreurs pendant ces deux premières années de premier mandat, 95-97, avec notamment la réforme des retraites qui a mis l'ensemble des Français dans la rue? Ou est-ce que pour vous, finalement, il a fait ce qu'il devait faire en homme politique responsable, même si c'était un peu contradictoire par rapport à sa campagne?
Bah c'est ça son principal problème, c'est qu'il fait une campagne archi-sociale sur la fracture sociale, une campagne très très humaniste, enfin très de gauche. Quand on entendait cette campagne, c'était tout à fait frappant. Or, dès qu'il arrive au pouvoir, il fait le contraire. Alors, c'est arrivé auparavant, mais pas à ce point, pas si vite, si vous voulez. Et ça, cette désillusion et ce tête-à-queue, c'est impossible en politique. Évidemment, les électeurs le voient. Donc, et en plus, prendre l'erreur de faire cette dissolution folle, alors même qu'il a une majorité au Parlement.
Donc, c'est juste quelques mois avant la fin du mandat des députés. Donc, il aurait de toute façon fallu retourner devant les électeurs,
oui,
quelques mois plus tard.
Sauf que les électeurs ne le comprennent pas. Ne comprennent pas pourquoi il dissout. Donc, on a connu ça après encore. Mais la dissolution, c'est très difficile à manier.
En 1997, Jacques Chirac se retrouve avec un Premier ministre qui est un Premier ministre de gauche. Comment ces deux-là s'entendent-ils finalement, Raphaël Baquet ?
Ils sont très méfiants. Alors d'abord, Jacques Chirac assure et affirme qu'à l'étranger, il lui reste encore beaucoup de pouvoir et que c'est lui qui aura un peu le dernier mot, dit-il. Un peu. Comme si on pouvait avoir un peu ou le dernier mot. On l'a ou on l'a pas. Donc, il est toujours un peu dans cet entre-deux lui-même. Hein. Mais lui-même, il admire le gouvernement de Lionel Jospin, hein, qui est très bien composé.
En fait, il admire toujours le camp dans lequel il ne se trouve pas.
Toujours, mais en tout cas, le gouvernement de Lionel Jospin ressemble dans les équilibres politiques et dans la composition à celui qu'il avait composé en 86. Il n'y a que des fortes personnalités, des gens qui représentent un courant très clair et qui incarnent leur politique. Vraiment, Martine Aubry incarne les affaires sociales, Strauss-Kahn incarne l'économie, c'est vraiment très très clair. Donc c'est un très bon gouvernement. Et lui-même, il est un peu bluffé. Il va d'abord tenter de le séduire. Il passe son temps à faire des tas de ronde-jambes, de baise-main au ministre femme. Il est très aimable avec Dominique Strauss-Kahn, il adore Claude Allègre. Il essaye d'abord de les séduire au point que Lionel Jospin en prend ombrage d'ailleurs, hein, est obligé de rappeler à l'ordre ses ministres. Et puis ensuite, il va utiliser et récupérer les choses qui rendent Jospin populaire. À chaque fois, il apparaît et il récupère la mise. Et puis, il lance quelques petites critiques lorsqu'il voit qu'il y a un coin à enfoncer. Il va être très habile, à vrai dire, pendant cette période.
Donc, sur le fond, vous pensez qu'il pouvait être d'accord avec, par exemple, les 35 heures ou un certain nombre de mesures qui ont été prises par ce gouvernement ?
Non, les 35 heures, il n'était pas d'accord. Et la droite était vent debout contre, et lui aussi. Donc ça c'est clair, c'est d'ailleurs les critiques quand même qu'il fera le plus souvent. Il voit bien en même temps que les 35 heures elles sont populaires, hein. Donc il voit bien que beaucoup de gens trouvent que c'est mieux de moins travailler. Donc il ménage ses critiques uniquement sous l'angle des entreprises, de la santé économique, pas sous l'angle du mode de travail. Hein. Il fera pas travailler plus pour gagner plus que fera Sarkozy après.
À
Après que chacun a cherché à marquer son territoire respectif, on sentirait presque entre eux une certaine complicité, comme on l'entend dans cette archive d'une conférence de presse à Amsterdam, 15 jours après l'arrivée à Matignon de Lionel Jospin.
Jean-Michel Lamy, Les Échos. Je voudrais poser à Monsieur le Premier ministre un peu la même question. À Poitiers, vous aviez dit que la cohabitation, ce n'est pas la fusion. Alors pardonnez-moi de le dire comme cela, mais n'avez-vous pas, même dans les affaires européennes, un peu le sentiment d'une forme de récupération ?
Permettez que je dise un mot avant que
vous... Je vous en prie, oui.
Je voudrais vous rappeler que nous sommes ici, en Hollande, et qu'il n'est pas dans les traditions françaises d'évoquer les problèmes de politique intérieure français quand on est à l'étranger. Je voulais simplement le dire à tout le monde, Monsieur le Premier ministre.
Ça va rendre ma réponse plus brève, Monsieur le Président de la République. J'avais fait une remarque de bon sens qui avait été ressentie comme telle. J'avais dit, pour cohabiter, il ne faut pas être dans la fusion. Il me paraît une évidence.
En un mot, ce n'est pas la fusion, mais ce n'est pas non plus la fission.
Raphaël Bacquet, une réaction sur cette archive célèbre.
Oui, ce qui est intéressant chez ces deux hommes, c'est qu'ils ne viennent pas du même camp. Ils n'ont pas le même... la même histoire, ils n'ont pas le même âge non plus, hein. Jospin est un peu plus jeune, mais ils ont la même formation politique, vous voyez, donc ils savent ce que c'est que de faire de la politique, ils savent, ils sont tous les deux suffisamment cultivés pour faire un bon mot chacun, ils savent bien qu'il faut jouer justement avec l'humour et l'ironie, que c'est la meilleure façon de mettre les regards de son côté. Ils ne sont pas si différents que ça dans leur formation.
Donc c'est une époque de la politique française où, en effet, à droite comme à gauche, on vit un petit peu dans le même sérail, on a fait un petit peu les mêmes écoles, oui. Et on se comprend parfaitement. Ce qui est très différent de ce qu'on vit aujourd'hui, au fond.
Bien sûr, mais c'est ça qui a été le grand bouleversement amené par Emmanuel Macron, c'est qu'il a provoqué, enfin où il est le produit, d'ailleurs c'est les deux, mais d'une rupture avec ce qui se faisait auparavant. Donc effectivement, à l'époque de Chirac et Jospin, ils se sont vus 1000 fois avant la buffette de l'Assemblée, voyez. Donc leurs proches, leurs ministres, leurs conseillers vivent ensemble et se connaissent parfaitement et parlent ensemble. Ils peuvent être en désaccord, hein, mais ce sont des désaccords qui sont discutés. Ce n'est pas du tout la même chose qu'aujourd'hui où on a une espèce de guerre de tranchées.
Durant le premier affrontement entre Chirac et Jospin, pendant la campagne de 95, ce dernier avait prôné le raccourcissement du mandat présidentiel avec une petite phrase gourmande.
Si je suis élu par les Français, je proposerai cette réforme car je pense que dans une fonction d'une telle responsabilité que celle de la présidence de la République, c'est trop long que 7 ans, à mon avis, surtout si ce mandat peut être renouvelable. En somme, je voudrais dire, en badinant bien sûr, mais avec un fond de sérieux, qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long, ça serait bien long. Et donc, ce débat aura lieu et les Français y sont favorables, donc ils seront favorables à cette réforme parce qu'ils savent qu'elle est nécessaire, qu'il faut que la démocratie respire sur un rythme plus régulier.
Raphaël Bacquet, que vous inspire cet extrait ?
À ce moment-là, c'est une façon de renvoyer Jacques Chirac à son âge, bien sûr, hein, et à sa longévité politique, les deux.
Mais ce qui a d'ailleurs coûté cher à Jospin.
Ce qui a coûté cher à Jospin.
Pendant la campagne de 2002.
Exactement. Appuyer sur l'âge, il faut le faire avec subtilité, parce que une partie des électeurs ont le même âge, sont âgés, et ils n'aiment pas, hein, évidemment, ça. Mais c'est vrai que, en tout cas, il a amené... Chirac n'a pas pu résister au quinquennat.
Comment finalement se sont passées ces 5 années de cohabitation ? Est-ce que Jacques Chirac a cherché à bloquer l'action du gouvernement Jospin comme Mitterrand avait cherché à bloquer l'action du gouvernement Chirac ?
Non, beaucoup moins que Mitterrand, qui avait refusé de signer les ordonnances, etc. Donc il a plutôt surfé sur la politique de Jospin. Il a surfé sur ses réussites et il a reconstruit sa propre image.
Vous pensez qu'il aurait gagné l'élection présidentielle de 2002 contre Lionel Jospin au second tour, Raphaël Bacquet ? C'est difficile de le dire, mais quelle est votre opinion ?
C'est difficile de le dire, mais si Jospin n'est pas au second tour, c'est justement qu'il y a un problème. C'est que lui-même ne rassemble pas. C'est que lui-même n'a pas réussi à rassembler toute la gauche qui s'est éparpillée. Donc on peut pas reconstruire l'affaire. Mais en tout cas, Jospin était certainement un adversaire très coriace pour lui. Oui, c'est vrai.
Et vous pensez qu'il a fait une bonne campagne, Chirac, en 2002 ?
Je me souviens très bien de ses meetings. Non, c'était frappant. Il y avait pas tellement de monde dans ces meetings. Alors, les gens venaient parce que c'est le président. Quel que soit le président, les gens veulent voir le président. Bon, c'est comme voir le roi, si vous voulez. Mais on voyait qu'il n'y avait pas vraiment une forte adhésion. Et donc, il l'a emporté ensuite parce que les conditions étaient particulières et qu'évidemment, il y a eu le choc du 21 avril et la présence de Jean-Marie Le Pen, qui était comme le diable, la terreur pour tous les Français. Mais sinon, non, il n'avait pas une... C'est vrai qu'il était vieilli, usé, fatigué, comme l'a dit Lionel Jospin, c'était pas faux. Il n'aurait jamais dû le dire publiquement, enfin, il n'aurait jamais dû le dire devant des journalistes qui l'ont rapporté, mais c'était assez juste.
Quelle vous semble être la responsabilité de Jacques Chirac dans la montée du Front National ?
Tout le monde a une responsabilité dans la montée de l'extrême droite. C'est vrai, pas seulement lui. Parce que il avait endossé certaines thématiques d'extrême droite, mais bien, bien avant, hein, quand même. Donc, le bruit et les odeurs. Il avait fait des incursions sur ce terrain.
Il s'agissait de chasser sur les terres du Front National.
Ah bah, à l'époque, oui, quand même. Il avait dans son camp à droite des hommes qui parlaient à un électorat potentiel de l'extrême droite. Charles Pasqua parlait à ce moment-là à un électorat potentiel de l'extrême droite, mais cet électorat, il était beaucoup plus petit. C'est ça la différence.
En 2010, les deux retraités, Chirac et Jospin, dédicaçaient leurs livres respectifs dans un esprit qui n'était pas tout à fait, du moins pour Jospin, celui d'une totale réconciliation.
Voilà.
Merci beaucoup, M. Chirac.
Je venais quand j'étais étudiant et je n'ai jamais cessé d'y venir. Car c'est un endroit sympathique, agréable, chaleureux.
Moi, je le vois tous les jours. Et c'est un bon président. Et il y a beaucoup de Français qui le regrettent. C'est un géant, il est très grand. Sarkozy, le pauvre, il m'a 1m60, je ne sais pas. Tandis que lui, Chirac, il a la statue.
De l'autre côté du boulevard, la brasserie Lippe, Lionel Jospin, à l'Auclair, griffonne sur les pages qu'on lui tend.
Pardon ? C'est votre 5e livre.
Oh non, 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 35e ? Non.
Jacques Chirac à deux pas, ça l'amuse.
Même notre cohabitation à nous était finalement moins distante, là, hein, parce qu'il y a quand même quelques centaines de mètres.
Sur la qualité du livre de l'ex-président, en revanche, il ne se force pas.
Écoutez, je lis en règle générale les livres qui sont écrits par leurs auteurs.
Quelle vacherie. C'est sans doute très vrai. Jacques Chirac n'écrivait pas lui-même. En fait, ce qui est intéressant chez Chirac, c'est qu'il a toujours été empêché. Il n'a jamais vraiment dirigé.
Empêché par quoi ? Par qui ?
Au bout de 2 ans, il fait la dissolution. Il n'a plus le pouvoir. Et quand il est réélu, au bout de 2 ans, il a un AVC. C'est fini. Donc, il a pas tellement dirigé. Il a dirigé 86-88, mais heureusement qu'il a Balladur auprès de lui. Donc, il n'a pas tellement dirigé.
C'est pas plutôt parce que, comme beaucoup le disent, il n'aimait finalement pas tellement diriger qu'il n'a pas dirigé ?
Peut-être. Moi, je crois qu'il ne savait pas quoi faire. C'est-à-dire qu'il était très très bon dans la conquête du pouvoir. C'est un merveilleux personnage romanesque, très amusant à décrire pour les journalistes. Mais ce n'est pas un très bon politique.
En mai 2002, Jacques Chirac est réélu et il va rester au pouvoir pendant 5 années supplémentaires. C'est comme s'il était parvenu à traverser toutes les tempêtes. Celui qu'on a longtemps décrit comme un agité sans envergure aura finalement occupé les plus hauts postes de la politique française. Doit-il cela à son image ? Et comment a-t-il cherché à la maîtriser tout au long de sa vie ? Nous en parlons au cours du prochain épisode. C'était Salle des Archives, épisode 4, une série de Mathieu Garrigou-Lagrange réalisée par Gilles Blanchard, attaché de production Lily Corner, prise de son Pierrick Charles, documentation INA, Delphine André.